Nous sommes témoins de la puissance divine de Jésus qui guérit cet aveugle. Et nous tous, nous voulons cette santé, santé du corps bien sûr, mais santé surtout de l'âme, qui est la partie la plus importante de notre être. Il est évident que pour notre corps, le pied est moins important que l'œil moins important que le cerveau, mais notre cerveau est même moins important que notre âme. À l'intime de nous-mêmes, notre âme est le lieu où nous pouvons connaître Dieu et l'aimer. Et nous avons tous, comme ce grand prêtre de la seconde lecture, besoin de guérison de l'âme. Pour cela, l'aveugle de l'Évangile est un modèle. Un modèle parce qu'il craint Dieu, ça sera ma première partie, un modèle aussi parce que cette crainte de Dieu l'ouvre à la confiance. Et ainsi il est exaucé. La crainte de Dieu dans la Bible n'est pas la fuite de Dieu. Adam, dans la Genèse, a peur de Dieu, mais ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de reconnaître son immense grandeur. Cet aveugle donne des titres à Jésus. Fils de David, ce qui veut dire Messie. Il l'appelle Rabouni, ce qui veut dire maître. Mais surtout, il reconnaît par la foi la puissance divine de Jésus et lui demande de prendre pitié. Nous devons imiter cette crainte de Dieu, de l'aveugle, en reconnaissant au plus profond de notre cœur la grandeur de Dieu. Cela passe aussi bien sûr par l'attitude du corps quand nous nous mettons à genoux à la consécration ou quand nous rentrons dans l'église et nous posons un genou par terre, nous reconnaissons que Dieu est là, il est grand. L'autre aspect de la crainte de Dieu dans la Bible, c'est de craindre d'être séparé de lui et donc d'éviter tout ce qui serait péché. Dans la vie du philosophe Jean-Paul Sartre, quand il était enfant, il y a eu un événement qui l'a marqué. Il avait fait une grosse bêtise, il avait brûlé une partie du tapis de la maison. Et là, il a eu une réaction très mauvaise. Il avait donc la conscience que Dieu le regardait, que ce qu'il avait fait n'était pas bien, et pour fuir le regard de Dieu, il a, hélas, insulté Dieu. Et il écrit que depuis ce jour, il n'a jamais eu conscience du regard de Dieu. Il est devenu aveugle, ce philosophe, par rapport à la présence de Dieu. Il écrit aussi qu'il vit un profond mal-être. Et on pourrait peut-être faire un lien entre ce mal-être et ce refus d'être sous le regard de Dieu. Mais nous ne voulons pas être aveugles de l'âme. Nous voulons prendre conscience que Dieu constamment nous regarde. D'ailleurs, le mot « Dieu » vient d'un mot grec, « théos », qui veut dire « celui qui voit tout ». Celui qui voit tout. Ainsi, de vivre sous le regard de Dieu nous fait prendre conscience non seulement de sa grandeur, mais de la nécessité d'éviter ce qui pourrait nous séparer de lui. Si nous sommes tentés par l'intempérance, nous pouvons nous mettre sous le regard de Dieu. Si nous sommes tentés par la colère, nous pouvons nous mettre aussi sous son regard. Si nous sommes tentés par l'orgueil, plutôt que de rechercher le regard des autres, nous pouvons rechercher le regard de Dieu, qui est en même temps un regard de bienveillance, et en même temps, Dieu déteste le péché. Cette crainte de Dieu, de l'aveugle, l'ouvre à la confiance. Car cet aveugle de l'Évangile sait que Dieu est puissant et donc il peut s'adresser avec lui, à lui. Jésus appelle l'aveugle et on lui dit à cet aveugle, confiance, lève-toi, il t'appelle. Notre âme a besoin de guérison et la maladie de l'âme s'appelle le péché. Sainte Thérèse de Lisieux écrit que si elle aurait commis tous les péchés de la terre, elle garderait la même confiance en la miséricorde de Dieu. Et Sainte Thérèse explique, dans ce cas-là, elle se jeterait dans les bras de Dieu le Père. L'aveugle jette son manteau, bondit et court vers Jésus. Un père de l'Église dit ceci. En jetant son manteau et en s'élançant vers Jésus, l'aveugle ressemble à celui qui se débarrasse de tous les liens du monde et qui s'empresse de marcher d'un pas libre vers la source de la lumière éternelle. C'est ce qui se passe quand nous allons nous confesser. Nous avons en nous ce qu'on appelle la contrition. La contrition, c'est en même temps regarder vers le passé pour détester notre péché, c'est regarder vers l'avenir pour choisir de ne plus pécher, et c'est de regarder vers la miséricorde de Dieu pour avoir confiance en cette infinie bonté. Ainsi, en nous confessant, nous retrouvons la santé de l'âme. Nous voyons que cet aveugle bondit en avant. Il est parfois bon de regarder vers notre passé pour comprendre dans notre vie quels sont les événements qui font que parfois nous avons du mal à vivre chrétiennement. Je suis colérique, intempérant, qu'est-ce que de mon passé sont ces blessures qui provoqueraient mes faiblesses? Il est bien de le faire et parfois c'est même nécessaire. Mais cela comporte un danger. Je vais essayer de comparer ce danger avec la conduite automobile. Dans notre voiture, nous avons devant nous un grand pare-brise et un petit rétroviseur. Le petit rétroviseur nous sert à regarder en arrière pour savoir si une voiture nous domble et ainsi éviter un accident. Le grand pare-brise nous permet de regarder en avant pour bien prendre les virages. Le danger serait de conduire en regardant constamment le rétroviseur et même en ayant un rétroviseur tellement grand qu'il prend la place de tout le pare-brise. Ce serait le cas si nous étions toujours fixés sur le passé, toujours en train de gratter, de chercher ce qui fait nos faiblesses, nos difficultés, et ainsi de désespérer et d'oublier de courir vers Jésus, de bondir en avant, puisque notre liberté, accompagnée de la grâce, nous permet de suivre Jésus. Rien, même si c'est difficile, ne peut vaincre la grâce en nous. En conclusion, la crainte de Dieu nous ouvre à sa grandeur, à sa puissance, nous permet de reconnaître que Dieu est bon aussi, nous invite à avoir confiance en lui. La crainte de Dieu, c'est aussi un don du Saint-Esprit, en plus d'un choix de notre part. Invoquons dans notre cœur l'Esprit Saint pour qu'il fasse grandir ce don en nous, pour que ce soit source de guérison. Amen.